Capidance du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Capidance New Wave, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais d'ici et d'ailleurs.
Bien, comment entretenir des relations interpersonnelles de qualité en milieu scolaire? Vous savez, en milieu scolaire, parents, élèves et enseignants n'ont pas toujours des relations interpersonnelles de qualité. Certains enseignants se plaisent à rançonner les élèves pour avoir des bons points. D'autres minimisent leurs collègues par rapport aux matières enseignées. Non, parce que lui, il enseigne soit la chimie. Bon, il se croit supérieur aux autres qui enseignent, par exemple, la géographie ou l'histoire. Autre chose, certains parents d'élèves sont toujours absents aux réunions des parents. Ils viennent jamais aux réunions des parents, mais si l'enfant, une fois son enfant échoue, on le voit débarquer très fâché, en colère à l'école, et ils tiennent des propos discourtoires à l'égard des enseignants. Voilà des choses qui arrivent dans les écoles. Alors comment entretenir des relations interpersonnelles de qualité en milieu scolaire? Odon Moulanda est spécialiste en éducation. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par relations interpersonnelles?
Merci beaucoup. Par relation interpersonnelle ici, nous voyons le cadre d'une communauté où il y a autant de personnes qui sont appelées à jouer, à travailler, à jouer, à collaborer, à être ensemble.
Oui.
Dans cette unité, il faudrait qu'il y ait quand même des attitudes qu'il faudra prendre les uns les autres. Et l'ensemble de toutes ces attitudes-là, de comportement, la manière de vivre, la manière de se comporter, va faire qu'il faudra établir des relations entre les uns et les autres. Et ce sont ces relations interpersonnelles-là que nous voulons voir comment faire de ces relations qui soient des relations vraiment de qualité. Parce qu'en soi, toutes les relations ne sont pas de qualité.
Voilà, généralement, qu'est-ce qui arrive en milieu scolaire? Qu'est-ce que vous avez pu constater comme relations interpersonnelles qui ne sont pas de qualité?
Bon, avant d'arriver d'abord au niveau de l'école, parlons d'abord de la communauté de manière générale. Lorsque deux, trois personnes s'associent, il se donne quand même des lignes de conduite. Comment nous devons vivre? Comment nous devons cheminer au cours de notre vie? Alors, lorsque l'un n'arrive pas à se mettre à la hauteur pour satisfaire l'autre, il se crée déjà un problème. C'est ainsi que dans la communauté...
Il y a d'abord le respect mutuel.
Le respect mutuel. Et pour que les choses puissent marcher, vous savez qu'au niveau même de la communauté, on signe des conventions, des lois, et même la constitution, par exemple, pour ce qui concerne le pays. Alors, en milieu scolaire, il se pose aussi des problèmes. Ces problèmes-là doivent trouver la solution. Et pour ne pas seulement attendre le problème, il faut prévenir les conflits, il faut prévenir le danger, le malentendu. Et c'est comme ça qu'on se trace maintenant des codes de bonne conduite.
D'accord.
Et au niveau des écoles...
Quels sont les types de problèmes qui arrivent souvent dans les écoles?
Bon, il y en a de plusieurs ordres. Et nous pouvons même aller pour voir un peu... Quels sont les acteurs qui sont impliqués dans ce genre de relations?
Oui.
Si je prends par exemple la relation élève-élève, quels sont les problèmes qui peuvent se poser? Vous savez que tous les élèves qui viennent au niveau de l'école appartiennent à des milieux socio-économiques différents. Donc, il y a aussi l'état physique, il y a beaucoup de facteurs qui créent la différence entre les enfants. Les enfants qui arrivent doivent se considérer d'abord inné, mais dans les différences. Quelqu'un est dit valide, d'autres sont enfants ou élèves vivant avec handicap. Donc il faudrait qu'il y ait cette cohésion-là entre eux sans tenir compte de l'état physique. Il y a aussi ceux qui sont des milieux riches. Ils ne peuvent pas venir prétendre brandir la richesse de la famille au niveau de l'école.
C'est là où on demande souvent aux enfants de s'habiller en uniforme. Ça
donc,
permet de...
Ok, justement, oui. C'est là qui fait qu'il faut casser maintenant tous ces facteurs-là de discrimination.
Oui.
Donc, au niveau des élèves, Il ne faut pas aussi qu'il y ait la distinction pour dire fille-garçon. Il n'y a pas d'avantage à accorder soit aux garçons ou encore aux filles. Il faut mettre tout le monde dans les mêmes conditions de travail, leur permettre d'avoir l'égalité des chances quoi, pour l'éducation.
Oui.
Alors, mais lorsque un enfant considère la richesse de la maison pour essayer de mater sur les autres, il y a déjà un problème.
Il y a des enfants qui font ça dans les écoles?
Dans les écoles, oui.
Qu'est-ce qu'ils font généralement?
L'enfant de tel, il va brandir maintenant le titre de tel député, il arrive là-bas, il ne respecte pas
l'enseignant.
L'enseignant, ça on en viendra. Mais d'abord les élèves. Il y a aussi ceux qui minimisent les autres, comme nous avons dit, des personnes vivant avec handicap, les élèves. Il y a les albinos, il y a beaucoup de catégories d'élèves qui sont marginalisés. Et à ce moment-là, nous avons le devoir de pouvoir ramener tout le monde à la même case de départ pour voir quelles sont les conditions qu'il faut créer pour que les élèves se sentent tous aimés, des frères, des sœurs dans une même communauté. Alors, nous pouvons passer aussi élèves-enseignants. Élèves-enseignants, on sait que le travail de l'enseignant, c'est de dispenser le cours. Il doit être facilitateur dans la communication de ses connaissances. Mais on remarque que lorsque le professeur, lui, se détourne de sa mission principale pour essayer de mater les élèves, par exemple, dans le cadre de monnayage, de rançonnement des élèves, et là, à ce moment-là, vous voyez que la relation devient biaisée.
Il y a des enseignants qui demandent de l'argent aux enfants.
Bien sûr, la corruption, ce n'est pas un nouveau mot. Nous le savons qu'il y a des professeurs.
Oui, ils créent des événements. Il y a un enfant qui est mort, dites à papa ou parents d'envoyer 5 dollars, on va assister, ou soit on va sortir, il y aura une sortie, et parfois il n'y a rien.
Oui, bon, ça, ce sont des causes qui arrivent, mais il y a d'autres aussi qui, devant la situation d'évaluation, il va composer l'examen pour que les élèves qui échouent arrivent à donner quelque chose. Ça, c'est déjà un problème. Et de l'autre côté, même au niveau des élèves.
Donc, il compose son examen de manière à faire échouer un grand nombre.
Un nombre pour que quelque
pour
part...
Après, il va dire à amener...
Oui, ça, c'est au niveau, à tous les niveaux. Même au niveau de l'enseignement supérieur, c'est ce que nous sommes en train de décrire. Alors, au niveau de l'élève lui-même, lorsque l'élève se retrouve encore d'une famille nantie, vous comprenez, il s'habille mieux que le professeur. Il est là, il peut venir, il prend son soulier, il regarde le soulier de son professeur. Et
qui n'est pas un très bon
état. Qui n'est pas un bon état et peut-être de quelle qualité. L'élève essaie de se moquer de ses professeurs. Et cet élève-là doit comprendre que, en venant à l'école, il ne vient pas brandir la richesse de la famille. Il ne vient pas faire n'importe quoi, mais il vient pour apprendre. Donc, il doit se mettre aussi dans des conditions d'apprenant qui doit avoir des matières auprès de ce professeur. Alors, il doit considérer aussi le professeur comme son parent.
Mais normalement, les élèves devaient se mettre en catch. Certains viennent à l'école avec des souliers.
Oui, évidemment, c'est là aussi la réglementation de part des autres qui se mettent en place. Il y a des écoles qui exigent qu'il ne faut pas que les écoles viennent avec des souliers, ainsi de suite. Là, nous encourageons toutes ces écoles-là qui essaient de minimiser la situation par rapport à ça. Mais est-il que il y a des élèves qui ne se mettent pas à respecter leur professeur et sachez qu'en le faisant, ils se dérobent aussi de la ligne de conduite qui est le règlement intérieur de l'école. Il y a encore un problème entre enseignants-enseignants.
Qu'est-ce qui se passe?
Au niveau des enseignants-enseignants, il se passe encore une guerre autour des écoles.
Entre les enseignants?
Moi, je suis de telle université, telle est de l'ISP, tel est de professeur de mathématiques. Moi, je suis le professeur de mathématiques. Je vaux plus que celui de l'éducation physique.
L'autre là, il est D6.
Moi, je coiffe tout le monde ici.
Ouais. Moi, donc, je suis le meilleur enseignant ici.
Dans la sommation, dans la cotation de l'enfant, on ne va pas dire que c'est seulement le cours de français. Ce n'est pas seulement le cours de mathématiques ou tel cours. Mais on se rend compte aussi que certains professeurs imbus d'un certain orgueil, se mettent à minimiser d'autres professeurs.
Même devant les élèves.
Même devant les élèves. Et il y a certains même qui se permettent de dire, vous savez que dans cette école, c'est d'abord moi, après le préfet. Ou du moins, sur le plan de l'habillement, c'est moi qui suis le grand malouata. Ça, c'est un problème. Et on va encore plus loin aussi. Il y a des professeurs hommes qui essaient de minimiser aussi des professeurs femmes. donc les enseignants qui minimisent les enseignantes. Donc quand on prend la dimension de la sexualité qui arrive à ce niveau-là, bon, il y a l'élément sexe qui dit bon, celle-là, qu'est-ce qu'elle vaut, le genre qui intervient, bon, les femmes, vous voyez, elles ne sont pas capables de faire quelque chose. Il y a encore un problème. À ce moment-là, le professeur femme, qui sait que je dispense très bien mon cours, mais quand elle est minimisée par l'autre, il se pose un problème.
D'accord. On va accueillir des auditeurs. Serge Kivula nous appelle de la province du Katanga et Maître Séverin est à Dungu.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Comment entretenir des relations interpersonnelles de qualité en milieu scolaire? Serge, vous êtes à Kibula, au Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à Radiookapi, aussi à l'invité.
Quelle est votre question, Serge?
Bon, je voulais juste, vous avez trouvé vraiment un sujet très pertinent. Je voulais juste demander à notre invité.
Oui.
Il y a de ces fois, il y a quelques fois là, vous êtes dans une même institution, dans une même école. Il y a certains enseignants qui, au lieu de suivre ce qui est recommandé par l'institution, ils vont réclamer les cours à la direction pour dire non, non, donnez-moi ces cours. Alors quand il part réclamer, on lui donne ces cours, il est octroyé. Il va commencer à minimiser les autres. Vous savez, moi, je suis un professeur de grand cours. On m'a donné la mathématique. Cet homme-là, on lui a donné d'abord le français. Le français, là, bon, on connaît ça depuis longtemps. Et puis, on lui donne encore l'histoire. L'histoire, ce sont des contes. Hein. Est-ce que je peux perdre mon temps à l'université pour suivre les contes, là? Il commence à minimiser. Alors, quand il est en train de prêcher ça sur les enfants ou les élèves, comment ils vont prendre cet enseignant? C'est pour les prendre à la légère. D'où je voulais un peu demander, qu'est-ce qui est prévu par l'institution ou par la loi pour de tels gens-là qui sont en train de minimiser les autres?
Serge, est-ce que vous avez vécu ce genre de situation là-bas à Kibula?
Je vous dis, je l'ai vécu puisque pour le moment je suis en mission des services là de la CENI, hein, pour le recensement dont vous venez de parler.
L'affichage, oui, des listes. Hein.
Oui.
Vous êtes enseignant?
Je l'ai vécu à Kamina, je vous le dis, je l'ai vécu. Ce sont des cas fréquents à Kamina, là où je viens.
Ouais. Et vous étiez enseignant à Kamina?
Je suis enseignant là-bas, je suis enseignant. Écoutez, et puis la deuxième préoccupation est celle-ci. Certains parents qui envoient leurs enfants dans des milieux scolaires, et ces milieux scolaires, l'enfant qui s'amène avec un téléphone, vous voulez ravir. On dit que non, nous ne voulons pas créer ici un esprit plutôt de concurrence. Nous voulons enseigner les enfants, avoir une éducation. Un parent, qui, si vous tombez sur son enfant comme ça, il vient avec des menaces, avec toute sa famille. Et on tenait, dans notre pays, il n'y a pas de justice. Vous verrez quelque part là, vous êtes traduit en justice et vous périssez en payant les amendes. Qu'est-ce qui est prévu comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si notre invité peut nous éclaircir sur ça.
Merci Serge. Maître Séverin, vous êtes à Dungu. Bonjour.
Et bonjour monsieur le journaliste. Et bonjour monsieur l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, monsieur le journaliste, d'entrée de jeu, je vais vous présenter d'abord les constats que nous avons faits.
Oui.
Surtout, à la fin de l'année, les parents se vengent à la non-remise des bulletins dans certaines écoles. Voilà la date du 10 juillet, une date prévue par les calendriers pour la proclamation et la remise des bulletins. Certaines écoles n'arrivent pas à accomplir ce travail-là. Voilà une source de conflit entre les parents et les enseignants. Le 2, il y a des écoles en milieu rural, les enseignants exigent les élèves en fonction de paille, de bottes de paille, de roseaux, que sais-je encore, sous prétexte que sous prétexte d'accomplissement du travail manuel, exposant ainsi les élèves à de grands risques, parfois certains, comme on dit par les CFAD, à des bousses, à la recherche de ces biais-là. Voilà aussi une autre source de conflit.
Bien.
C'est comme ça que nous avons fait également.
Oui.
Les enseignants humains, les fumeurs de cigarettes, pour une ligue contre ceux qui ne les sont pas fumés. Voilà un peu trop de comment. Et pour terminer, certaines écoles aussi, là où si l'enseignante, il y a une salle est dirigée par une enseignante, la maîtresse communément appelée, et devant elle, elle se trouve devant une élève qui a presque la même taille ou trop âgée qu'elle. Il y a une sorte de rivalité qui voit un peu le jour. Quels seront un peu les conseils qui seront placés par les idées du jour au fait que moi, je vais d'exposer.
Bien, merci. Doudou, vous êtes à Mbujimaï. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour, Pierre l'invité.
Quelle est votre question?
Bon, dans tout ce que l'invité vient de dire, tout ce qui se passe entre enseignants et élèves, c'est lieu plus à la corruption.
Quelle est la question alors, Doudou?
Moi, j'aimerais d'abord dire ceci.
La question.
Si l'enseignant était bien payé, bon, comment un enseignant peut coopérer avec un élève pour qu'il puisse lui donner l'argent?
Alors, quelle est la question? Passez directement à la question.
Oui, maintenant, ce qui concerne, je n'ai pas vraiment une question, j'ai vraiment un point de vue.
D'accord. Si vous avez un point de vue, vous pouvez le garder. Je vous avais déjà parlé de la corruption. On va gagner le temps. L'invité va d'abord répondre aux questions qui sont posées. Monsieur Odo Moulanda, vous avez la parole.
Merci à Serge qui est à Kamina. Dany, si vous pouvez m'autoriser à présenter quand même mes condoléances à toute la communauté éducationnelle de Katanga, avec la perte d'un responsable important, c'est le responsable de l'éducation de Kamina, qui est le prophète de Kalwele, que nous avons connu, qui était aussi un grand fervent auditeur de la radio Kapi, parce qu'il me faisait des réactions par rapport aux émissions que nous passions. Il vient de nous quitter, alors à l'ensemble de la communauté éducationnelle du pays, je présente mes condoléances vraiment les plus émues. Alors, pour revenir à la question de notre ami Serge, moi je pense qu'il parle des réclamations du cours. Ce que j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui va s'arranger à voir le préfet ou le responsable de l'école pour qu'on lui attribue tel cours.
Oui.
Et en le faisant, il se considère un peu plus important par rapport aux autres. C'est comme ça qu'il faut toujours comprendre, que ça soit pour les amis, dans la manière générale, nous disons que l'école, c'est une communauté qui est composée d'experts. Quand l'enfant va terminer ses études, il ne va pas se considérer celui qui a été le seul responsable ou l'acteur de sa fondation que le professeur de français. Non. Donc, il a besoin des matières de tous les professeurs, mathématiques, français, même éducation physique. Et d'ailleurs, pour sortir même du cadre des professeurs, vous savez, monsieur Dany, lorsqu'on est dans la communauté scolaire, même la sentinelle qui est devant la porte joue aussi un rôle.
Bien sûr.
Que nous ne voyons pas qu'après les études, vous passez en cours de route, vous voyez le capitaine de l'école. Il dit « Ah, bonjour papa, vous avez été notre capitaine. » C'est que l'enfant reconnaît à ce capitaine-là aussi une certaine considération par le rôle qu'il a joué pendant sa formation. Donc, tous les professeurs doivent se considérer tous vraiment des spécialistes. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, il faudra voir que chacun a un rôle à jouer. Donc, pour l'édification de l'enfant, il a besoin de toutes les matières. Il n'a pas besoin d'une seule spécialité et chacun doit considérer que le rôle qu'il doit jouer, c'est un rôle complémentaire par rapport aux autres. Donc, ça, c'est vraiment très capital. Alors, il a parlé aussi de problèmes de téléphone.
Les enfants qui viennent avec des téléphones. Des derniers cris VIP à l'école.
Oui, mais
et dès que l'enseignant parle, c'est fini, les parents viennent pour punir l'enseignant.
Et c'est comme ça que nous disons qu'il faudrait respecter la ligne de conduite. Donc, s'il y a des parents qui veulent offrir à leurs enfants des téléphones, mais il faudra voir que pendant les heures de cours, l'usage des téléphones est prohibé. Donc, ça ne peut pas se permettre que dans une salle de classe, que chaque enfant ait son téléphone, et pendant que l'enseignant donne son cours,
là, ce sonne,
c'est tout un problème, et nous ne pouvons pas encourager. Alors, s'il faut passer directement à Maître Séverin, il parle de...
Les 10 juillet, le jour de la clôture, les écoles ne remettent pas les diplômes, et ça crée des problèmes.
Ça crée des problèmes. En fait, là, on n'a pas encore, je voulais aborder la relation entre enseignants et autorités. qualité scolaire. Mmh. Parce que cet enseignant-là, qui ne se met pas à l'ordre, qui ne se met pas dans les délais fixés par son autorité scolaire, c'est-à-dire le chef d'établissement, pour remettre les bulletins, c'est tout un problème. On ne peut pas engager toute l'école, mais la responsabilité est déjà constatée auprès de l'enseignant titulaire de la classe qui était censé remettre ses bulletins avant. Donc ça, ce sont des raisons qui peuvent faire en sorte que les parents, dans leurs droits aussi, puissent réclamer. Et là, nous ne pouvons pas dire le contraire. Mmh. Au niveau du milieu rural, comme il a dit, Le travail manuel,
on envoie les enfants couper la paille, les roseaux, au risque de se faire mordre par les serpents.
Il faudra reconnaître aussi que la loi est claire là-dessus. Donc les travaux manuels, ce ne sont pas des travaux qu'il faudra le faire au profit de l'enseignant. Il faudra donner des travaux, un travail producteur. Il y a des travaux qu'on doit réaliser au niveau de l'école, des jardinages et bien d'autres activités. Ça dépend maintenant des activités qui sont prévues. Et d'ailleurs, là-dessus, le moment venu, au niveau même du ministère, il faudra qu'on voie qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on va publier le programme par rapport au nouveau concept, par rapport à la réforme qui est en cours, pour que ce travail manuel ne puisse pas servir comme ceux qui disent, bon, amener les savons, amener 200 francs, amener ceci,
c'est pas le travail. Les papiers hygiéniques.
Donc, moi, je pense que c'est une responsabilité individuelle. Chacun doit se mettre en tête que ce qu'il fait enfreint la loi, parce qu'aujourd'hui, un enfant est mordu par les serpents. Mais la loi punit l'auteur de ces crimes. L'enseignant. Et aujourd'hui, l'enseignant qui va envoyer des enfants, il y a cas de blessures, il y a cas des enfants qui vont connaître des déboires dans la forêt. Mais il sera le seul responsable devant la loi. Donc, au niveau de la réglementation, ce n'est pas permis. Donc, il revient à ces enseignants de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut produire réellement comme travail au niveau de l'école.
On va accueillir deux auditeurs. Faradja, avant de continuer, Faradja nous appelle d'Académie et Georges Desmanolo. Faradja, bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio 4.
Quelle est votre question, Faradja?
Ok, merci. Je vais commencer par un constat que j'ai déjà fait. Il y a quelques années que moi je suis enseignant de l'école primaire.
Oui.
Mais ce que j'ai compris, j'ai vu que l'école primaire, la relation entre enseignant et élève, vraiment, c'est une relation qui passe bien. Mais ce qui cause problème, c'est la relation entre enseignant et parent. C'est là qu'il y a un problème à l'école primaire. Alors, dernièrement, j'ai été victime d'une violence que un parent est venu me menacer à l'école parce que son enfant était non classé à la première période. Je vais m'excuser, je dis, d'avoir donné ça parce que ça m'a beaucoup compliqué.
Mmh.
Alors, quand l'enfant avait été sorti non classé à la première période, c'est que l'enfant avait falsifié les points dans son cahier d'interrogation. Alors, j'ai dû faire sortir cet enfant non classé. Sa maman est venue me menacer devant les élèves. J'ai essayé un peu de tranquilliser la maman et lui dire, on va causer même là où nous sommes à deux. La maman n'a pas compris. Alors, je ne sais pas ce que l'invité peut me dire. Au cas où je suis victime encore d'une telle violence, est-ce que je peux traduire un parent, le parent d'un élève en justice, si je vois que réellement le parent vient me menacer, et dans ce cas-là, moi j'ai raison. C'était ça la question que j'avais à poser à l'invité.
Merci.
Merci, bonne journée à...
Merci Faraj. Bonne journée à vous aussi. Georges, vous êtes à Manono, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Capi. Alors moi, ma préoccupation va centrer sur des relations qui ne semblent pas exister entre le directeur et le parent. Et je vais partir d'un cas, vous verrez avec les problèmes de FIP, il y aura peut-être un parent qui n'a pas de moyens, soit on vient de chasser son enfant à l'école, vous verrez le papa va faire une petite note pour le directeur. Pour dire que non, peut-être on ne m'a pas encore payé, attendez à la fin du mois, je vais venir avec de l'argent pour donner. Alors vous verrez le directeur commencer à dire non, je ne peux pas accepter cela, d'ailleurs le papa ne peut pas me faire nourrir, il faut que je te chasse pour qu'il donne de l'argent. Alors ma question, c'est de savoir, est-ce que pour le cas de l'absence de l'argent, le directeur ne peut pas tolérer pour dire non, il faut qu'il vienne payer soit à la fin du mois, quand il aura l'argent. Alors, pour terminer, monsieur Jody, je dois partir d'une situation quand j'étais encore à l'école, quand j'étudiais. J'avais fait une école primaire. Quand on étudiait, il y avait une maîtresse lors des sorties des téléphones. C'est elle qui avait les téléphones pour ce temps-là. Toute l'école n'avait pas de... toute l'école, il n'y avait personne qui avait les téléphones. Même les directeurs n'avaient pas de téléphone. Qu'est-ce qui arrivait? Maintenant, elle parvenait même à ne pas enseigner en classe comme ça. Elle prend le téléphone et commence à manipuler. D'ailleurs, elle grondait même devant les élèves pour dire non, même le directeur n'a pas le téléphone, c'est moi seulement qui a le téléphone. Alors pour ce cas-là, le directeur aussi s'est fâché pour chasser cette enseignante-là. Alors pour ce cas-là, est-ce que le directeur avait mal fait ou c'était par le cas qu'elle-même, la maîtresse, avait fait? Merci beaucoup, M. Jody.
D'accord.
Merci aussi à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bien, M. Odon Moulanda, vous avez la parole.
Merci, ce sont des questions intéressantes. Bon, je récupère en fait Doudou Amboujmaï qui a dit que
si
cet enseignant-là était bien payé, est-ce qu'il pourrait arriver à la corruption? Non, aujourd'hui, je pense que c'est une question de morale. On pouvait être bien payé, mais quand on est déjà mal éduqué, mal habitué à des mauvaises pratiques, ça ne changera absolument rien. Il ne me dira pas que la situation que traversent tous les enseignants, en général, est que tout le monde agit de la même manière. Donc, quelque part, il y a quand même des exceptions, mais ce que nous disons, c'est l'idéal. Donc, il faudra que l'enseignant puisse dispenser son cours, faire son travail. Et quand il y a la réclamation à faire, ce n'est pas auprès des parents ou auprès des élèves, il y a des institutions spécialisées qui sont là, c'est-à-dire recourir aux autorités compétentes pour réclamer ce qui est des droits à travers les syndicats et autres organes qui sont habilités à le faire. Mmh. Alors par rapport à Farah Johamanono, il a parlé de la relation qu'il considère normale entre enseignants et élèves au niveau du primaire, ça c'est correct. Il parle maintenant de problèmes entre enseignants et parents.
Certains parents qui viennent gronder les enseignants à l'école.
Alors, lorsqu'il parle des non-classés, que ce soit du côté des parents, que ce soit du côté des enseignants, nous avons toujours prôné qu'il y ait le pont entre l'école et la famille. Mais lorsque l'enfant est non-classé, vous-même comme éducateur, quelles sont les raisons qui ont poussé que l'enfant soit non classé?
Il dit que l'enfant avait falsifié les résultats de l'interrogation.
Mais est-ce que les parents étaient au courant? Est-ce que l'école avait invité le parent pour lui faire part de la situation? Il y a des enfants qui font l'école buissonnière, mais qui ne sont pas du moins détectés au niveau des parents. Il revient à l'école d'établir le pont entre la famille et l'école pour essayer d'éradiquer certains problèmes qui se posent dans cette collaboration. Alors, pour ne pas être menacé, moi je conseillerais tout simplement à Farah de voir d'abord le chef d'établissement, parce que ce n'est pas un problème de l'enseignant et des parents directement, c'est l'enseignant et l'école. Donc tout doit passer par la voie hiérarchique, c'est-à-dire que si vous avez un problème avec tel parent, posez d'abord le problème au chef d'établissement qui va à son tour inviter les parents et vous mettre ensemble, vous trouverez toujours la solution à ce problème qui est posé. Donc, pour tous les cas, moi je pense que c'est
invité d'abord le pont. Mais il y a certains parents qui ne passent pas par la direction, il va directement voir l'enseignant et le menacer.
Oui, mais c'est justement, c'est là aussi la réglementation qu'il faut respecter. Donc, au niveau de l'école, on ne peut jamais, un étranger, parent soit-il, ne peut pas passer directement dans la salle de classe sans passer par la direction de l'école. Parce que si l'école n'organise pas la sécurité de cette manière-là, un jour ou l'autre, on peut vivre l'enlèvement d'un enseignant et on va se rendre compte que ceux qui sont venus là-bas ont pu prendre l'enseignant, on ne sait pas où est-ce qu'on l'a mis.
Oui.
Donc, c'est en fait une question d'organisation aussi au niveau de la direction de l'école qui ne peut pas être indifférente de problèmes qui se passent dans les salles de classe. Alors, par rapport à Georges,
la relation directeur-parent.
Parent, c'est justement ce que nous venons de dire. Évidemment,
le parent a écrit une note pour dire « Laissez mon enfant étudier, je viendrai payer à la fin du mois », le directeur refuse.
Bon, ça c'est en fait une dérogation qu'il a voulu demander.
Oui.
Et je ne sais pas dans quel cadre cette dérogation a été refusée, mais je pense qu'en établissant le vrai pont, quand je dis la relation entre parents et l'école, quand c'est une relation qui est permanente, les parents se connaissent régulièrement avec les responsables de l'école, quelles que soient les difficultés. Moi, je ne vois pas comment ce chef d'établissement serait vraiment indifférent à la requête du parent. Moi, je pense que si cela est arrivé, c'est quand même regrettable, mais il reviendra au chef d'établissement de comprendre aussi que cette requête-là peut quand même trouver la solution. Donc, ce n'est pas un problème bon, par rapport à la maîtresse de téléphone.
La maîtresse, est donc, dans toute l'école, il n'y a qu'elle qui a un téléphone.
Bon, évidemment, vous voyez, c'est aussi ce que nous avons dit, relation enseignant-enseignante, relation enseignant et autorité de l'école. Donc, celui-là, Elle a peut-être eu la chance
d'avoir
qu'il y ait quelqu'un de la famille ou une connaissance qui lui a offert ce téléphone-là.
C'était l'occasion de s'enorgueillir.
S'enorgueillir et se considère au-dessus de tout le monde. Donc, ce que nous disons, si elle du moins brandit le téléphone, mais elle ne sait pas aussi qu'est-ce que les autres peuvent brandir. Donc, dans la vie, il ne faut pas s'enorgueillir. Il faudra seulement se mettre au diapason de tout le monde et comprendre comment nous pouvons tous vivre ensemble dans la diversité et il y aura moins de problèmes dans le respect mutuel et dans la diversité. On verra un peu avec tout ce qu'on a comme moyen et comme difficulté. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de mutualiser d'abord toutes ces faiblesses-là. Et en les mutualisant, nous devenons tous très forts dans une communauté unie. Donc voilà un peu par rapport à leur
préoccupation. Dieudonné est à Kananga. Drop de l'aimé, nous appelle de Guéména. Dieudonné, bonjour. Dieudonné. On vous écoute.
Oui, ma question c'est que est-ce qu'il est interdit de se marier entre les enseignants? Si les enseignants, entre eux, il y a des célibataires, est-ce qu'il est interdit qu'ils se marient? Parce que comme on est en train de parler des relations...
interpersonnelles.
Oui. Et puis, ma deuxième préoccupation c'est que quelles sont les limites des relations entre enseignants et élèves et enseignants entre eux-mêmes? Merci.
Bien, drop de l'aimé de Guéména, bonjour.
Ah oui, bonjour, je dis.
On vous écoute.
Oui, mon problème est celui-ci. Nous rencontrons ici beaucoup d'écoles privées qui naissent comme des champions. Et ces écoles privées protègent beaucoup les enfants. Les enfants aussi, comme ils savent que les enseignants sont mal rémunérés, commencent à mépriser les enseignants face à beaucoup de situations par rapport au habillement des enseignants, par rapport au téléphone que les enseignants détiennent. Et par rapport à d'autres situations que les parents sont capables de faire et que les anciens ne sont pas capables. Mais face à des situations pareilles, si un ancien ose seulement de parler, comme les écoles privées visent de l'argent, attendent seulement de l'argent, ils méprisent même l'enseignant face à cet élève-là. Mais que faire face à de telles situations?
Bien, merci Drop de Guéména, Odom Moulanda.
Bon, merci d'avoir donné à Kananga qui parle de mariage entre deux enseignants.
Ou une relation amoureuse. Dans une école, il y a deux enseignants tombent amoureux l'un de l'autre.
Oui, alors il dit quelles sont les limites.
Oui.
Entre enseignants et enseignantes, moi je pense que les limites, c'est qu'il faudra avoir, comme nous disons, la relation de qualité. Quand c'est le concubinage, lorsqu'on sait que tel professeur
sort avec telle
maîtresse ou tel professeur.
Oui, ou
c'est quand même gênant.
Les directeurs sortent avec telle maîtresse.
Telle maîtresse, là, ça ne peut pas aller. Ça, ce sont des choses que la loi même prohibe. Donc, quand on dit du mariage, donc c'est un engagement officiel qui est connu de tout le monde.
Mais pas
donc,
le concubinage
pas
à l'école.
Pas le concubinage à l'école. Là, c'est déjà de l'immoralité. Lorsque c'est quelque chose qui est officiel, le mariage, là, il n'y a pas de limite. Il faut donner quand même la chance à ces gens de se marier. Mmh. Et ce n'est pas mauvais. Donc, le professeur et l'élève, là, c'est déjà mauvais. Parce que vous êtes le parent de cet élève-là. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'entretenir des relations coupables avec cet élève-là. Parce que, comme conséquence, vous pensez que cet élève-là qui sait que tel professeur est mon amant, peut-il vraiment le respecter? Non. Donc, vous êtes là, l'élève peut dire n'importe quoi parce qu'elle sait que vous avez perdu une portion de pouvoir par rapport à elle. Donc, les limites, c'est que les relations coupables entre professeur et élève, ça c'est vraiment prohibé. Et même la loi l'interdit parce que ça entre même dans le cadre de l'harcèlement sexuel. Donc, c'est pas autorisé.
C'est pas autorisé. On va accueillir Madame Yvette de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité aussi.
On vous écoute.
Je voulais savoir, je voulais poser la question à notre invité. Est-ce qu'il n'y a pas une loi vraiment qui est faite pour protéger les enseignants? Si l'État n'a pas prévu une loi pour des protections pour les enseignants, puisque ces gens-là, ils ont de la matière qu'ils sont en train de nous donner, de distribuer à tout le monde. Mais quand un parent quitte son domicile, sa maison, pour venir faire semer du désordre dans une école, quelle est la sanction qui est prévue pour ces genres de personnes? Au départ, ce sont des personnes qui sont mal éduquées, puisque moi, en tant qu'enfant d'un enseignant, tout le propos que vous avez tenu, tout ça, m'a écœuré. On peut voir que ça, c'est qu'un parent quitte son domicile, sa maison, pour venir s'attaquer à un enseignant dans une école. Et puis l'école à son tour, quels sont qu'est-ce qu'ils font pour protéger les enseignants? Voilà, quelles sont les mesures prises pour protéger les enseignants? Un parent qui quitte chez lui sa maison pour venir attaquer à un enseignant. Quelles sont les mesures que l'école a prévues pour protéger les enseignants? Voilà, c'est ça. Je suis vraiment désolée, je suis déçue d'apprendre tout ce que vous l'invité a dit contre les enseignants. Moi, en tant que fille d'un enseignant, mais je suis bien éduquée, je ne peux pas accepter. Si cette personne a été du moins bien traitée, si chacun de nous savait ce que l'enseignant a comme matière à distribuer et de quelle façon il est, malgré leur petit salaire qu'on leur donne, en tout cas, un parent ne peut pas quitter pour venir s'installer dans une école.
Injurier ou menacer l'enseignant. Voilà.
Et je vais demander s'il y a qu'on fasse une loi portant protection pour les enseignants à travers toutes les tendues de notre pays. Je vous remercie.
Bien, merci Madame Yvette. Monsieur Odomoulala.
Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que nous n'avons que répondu à la question d'une personne qui nous a parlé de cette situation-là. Et moi, je pourrais vous dire aussi, Madame, que nous sommes dans les corps enseignants. Et ce que nous sommes en train de crier, ce n'est pas seulement ce qui concerne la protection à faire par rapport à l'enseignant, c'est par rapport à l'homme. De manière générale, parce que la même situation peut se passer dans un hôpital, ça peut se passer aussi dans n'importe quel service. Alors ici, puisque nous sommes dans le milieu scolaire, nous avons dit que les parents, comme l'école, doivent se mettre ensemble à travers un pont qui puisse permettre des bonnes relations. Lorsque ces parents-là quittent la maison pour venir injurer l'enseignant, mais quels sont les mécanismes que l'école a mis en place d'abord pour protéger l'enseignant qui est dans sa salle de classe?
Et vous avez dit que le parent n'a pas le droit d'aller directement jusqu'à la salle de classe.
Donc, le parent qui est lésé doit venir d'abord jusqu'au niveau de la direction et à partir de la direction poser son problème. Il revient au chef d'établissement d'appeler l'enseignant pour en savoir un peu plus.
Oui.
Donc, nous ne pouvons pas encourager qu'un parent vienne se mettre à injurier l'enseignant et faire n'importe quoi. Là, même la loi l'interdit. Il n'y a pas une mesure spéciale par rapport à l'enseignant, mais la loi du pays, sur le plan juridique aussi, reconnaît à toute personne la liberté de pouvoir traduire une personne en justice lorsque ses droits sont lésés. Donc, par rapport au cas qui nous concerne, madame, il faut retenir d'abord que nous ne devons pas parler avec sentiment. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui a poussé les parents de quitter la maison pour essayer d'interpeller l'enseignant. Et au niveau de l'enseignant, lorsqu'il y a un problème, est-ce que l'enseignant a eu le temps de voir son chef d'établissement lui parler de la situation de l'enfant? Puisque lorsque la direction de l'école est saisie d'un problème, le problème ne relève plus de la compétence de l'enseignant, mais c'est la direction qui traite directement avec le parent. Et c'est cette direction qui peut décider du renvoi aussi de l'enfant lorsqu'on se trouve que le cas a atteint un niveau de flagrance vraiment très, très, très prononcé. Donc, nous n'encourageons pas qu'il y ait des parents qui puissent toucher à l'honneur des enseignants, mais nous disons aussi aux enseignants de pouvoir respecter la réglementation au niveau de l'école, parce que quand vous dites un enfant non classé, ou vous chassez un enfant,
Vous tapez un enfant, il va accuser à la maison. Et le lendemain, les parents débarquent.
Arrive.
Oui.
Ou carrément, vous avez chassé un enfant sans que la direction ne sache, mais qu'il y ait un accident en cours de route. Mais les parents viendront réclamer. À ce moment-là, vous n'allez pas vous dire que non, parce que je suis dans mes droits et que cet enfant-là ne peut pas, pardon, ses parents ne peuvent pas revendiquer ce qui revient de son enfant. Donc, nous avons des devoirs et nous avons aussi des droits à suivre. Donc, dans ce cas-là, la réglementation voudrait que l'enseignant puisse d'abord établir des bonnes relations avec la direction de l'école et la direction d'école avec les parents. Il n'y aura pas de problème. Nous voulons établir la paix, établir la cohésion parce que on ne peut pas bien fonctionner dans une école quand les parents et l'école ne sont pas en bonne relation.
Pour conclure, M. Odon Moulanda, on retient qu'il faut d'abord qu'il y ait une bonne communication.
Voilà.
Et puis, les respects mutuels entre enseignants, entre parents enseignants et élèves-enseignants, élèves entre eux. Donc, une bonne communication et les respects mutuels.
Voilà. Et puis, comme nous avons dit, une relation de qualité.
De qualité.
Voilà.
Bien. Odon Moulanda, spécialiste en éducation, merci.
Merci beaucoup.